Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Nous continuons aujourd'hui notre reportage sur l'évolution de la silhouette féminine en 50 ans. Nous avons consacré notre dernière émission au corset et tout naturellement, nous en arrivons aujourd'hui à la lingerie. Et c'est Mademoiselle Cadol de la maison Cadol qui va nous aider à faire une petite mise au point.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il paraît qu'il faut dire la Fashion Week et non pas la semaine de la mode pour désigner l'événement qui vient de se dérouler à Paris, après New York, Londres et Milan, et qui a dévoilé les nouveautés du printemps et de l'été 2013. Au demeurant, l'essentiel n'est pas dans l'intitulé, mais dans ce qu'on nous dit des créations à venir. On peut lire dans les chroniques des journalistes spécialisés que la femme devrait être l'an prochain plus légère et plus libre, mais cependant structurée, je cite, « selon une évolution qui, à en croire la déclaration à l'AFP d'un des grands noms de la haute couture, de la haute couture new-yorkaise, Caroline Herrera, sera inspirée, je cite encore, par la lumière, les mouvements, la fluidité charmeuse et définira de la sorte une nouvelle silhouette. On pourrait se contenter, quand on n'est pas de ce monde-là, d'y rêver de loin entre tendresse et fantasme. Mais quand on est historien et qu'on entend parler d'une nouvelle silhouette, l'œil s'amuse, l'oreille se dresse et la curiosité se pique et l'on se hâte de retrouver la longue durée en se réjouissant, comme souvent déjà à ce micro, d'inviter Georges Vigarello, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, car il va publier dans quelques jours un livre intitulé précisément « La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours ». Éminent spécialiste de l'histoire du corps, sur lequel il a organisé un opus magnum récemment, il s'y interroge sur ce que le profil des femmes et des hommes, jadis et naguère, est à même de nous apprendre quant aux représentations que la société d'âge en âge a pu se faire d'elle-même avec le poids du conformisme et la quête de la différence en liaison immédiatement visible avec l'identité de tous et de chacun. Rien de moins frivole en réalité, malgré les apparences, que ce sujet-là.
C'est décevant. Non plus de derrière et non plus de devant. Plus de néné, soit en poire, soit en pomme. Plus de cheveux, plus de mollets, rien en somme. La mode a proscrit son nulle l'ondulée. Son cruel rabot a maintenant tout nivelé. Et l'on se dit, je suis acteur quand je suis dans le dodo. J'ai du goût pour les planches comme les cabots. Les filles, c'est des garçons. De petits hommes, oui, voilà ce qu'elles sont. Elles n'ont plus signé ça. Aucune rondeur, non, le calme plat. Les bosses que nous aimons s'en sont allées. Et l'on ne voit plus de monts ni de vallées. Les filles, c'est des garçons. De petits hommes, oui, voilà ce qu'elles sont.
Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson que je vous offre pour commencer notre conversation s'intitule « Les filles, c'est des garçons ». Elle est interprétée par Gaston Gabaroche en 1927. Et bien sûr, je l'ai choisie parce qu'il s'agit d'un des moments de l'histoire de la silhouette dont nous allons parler pendant une heure, un des moments où il y a eu une mutation la plus frappante avec cette disparition des formes, des rondeurs. « Les filles, c'est des garçons ».
Oui, effectivement, c'est un moment important dans la mesure où l'implication des femmes dans le monde quotidien, dans l'espace public, entraîne le fait que disparaissent tout un ensemble d'atours, de surplus qui comportaient l'habit à la fin du 19e et encore au début du 20e, et qui empêchaient finalement un certain type de dynamique, une certaine mobilité, une souplesse, une légèreté. Et l'impression que donne à ce moment-là la femme nouvelle, qui prend pour nom le terme de garçonne, c'est une impression effectivement radicalement différente. Ce n'est pas simplement un changement, c'est une véritable mutation. Quand vous comparez les tenues du début du 19e, du 20e pardon, et les tenues des années 20-30, ici c'est 27, vous avez le sentiment que tout a changé et qu'il y a une sorte d'élancement du corps, que les formes arrondies ont disparu. L'interprète dit c'est du calme plat. Moi je crois qu'il faut dire l'inverse, dire que ça apparaît effectivement quelque chose qui est de l'ordre du plat. C'est précisément parce qu'elles sont beaucoup plus actives, c'est précisément parce qu'elles sont beaucoup plus dynamiques et qu'elles ont quelque chose qui est de l'ordre de la sveltesse, vous voyez, tonique. C'est complètement nouveau, cela.
C'est le temps où Colette, dans un livre qui s'appelle « Belle saison », évoque une jeune femme de la sorte. Sa silhouette m'amuse, sa dégaine de gamin maigrelette, sans hanches, sans derrière, d'une minceur agressive et élégante.
Oui, alors Colette est quelqu'un qui décrit magnifiquement ces nouvelles normes physiques. Ils ne sont pas seulement des normes de mode, ce sont des normes qui touchent à la morphologie, bien entendu. Et on le voit dans la description de Colette. Colette, lorsqu'elle décrit également Vinca, le fait de façon très frappante. Elle dit Vinca avec ses muscles longs, ses allures de garçonnière, mais qui descend les escaliers en courant. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a sous l'apparence quelque chose qui est de l'ordre de la flamme, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du mouvement et de la dynamique. C'est ça qui me paraît véritablement nouveau.
Ce que vous nous dites, en somme, en réfléchissant à l'histoire de la silhouette, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une évolution des atours, la manière de s'habiller, mais que cette évolution touche en somme à la forme même du corps, à sa manière de se mouvoir, de se démontrer, de s'affirmer.
Mais bien entendu, je crois que ce qui est passionnant précisément dans l'histoire du corps, c'est de montrer que c'est la chair en un certain sens qui change, et que la chair elle est culturelle, vous voyez, on le voit très bien dans ces exemples-là. C'est pas seulement, comme souvent on a tendance à le dire, une affaire de mode et de vêtements, c'est vraiment une affaire de disposition physique nouvelle et différente.
Alors je vais d'abord vous entraîner loin en arrière, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, pour que vous nous racontiez comment a surgi le mot de silhouette au mi-temps de ce XVIIIe siècle. Alors, silhouette, c'est d'abord un personnage, et rares sont les personnages qui ont donné naissance à des noms propres. Je vois mansarde, poubelle, guillotine, sandwich, mignardise, pour ne pas citer...
Bah vous en avez beaucoup déjà.
Pour ne pas citer les vespasiennes.
Oui, vous avez raison. Non, mais je pense qu'il faut dire que le mot, lorsqu'il apparaît, nous semble très loin de ce que nous avons tendance à penser aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot silhouette est tellement entré dans la vulgate que nous pouvons utiliser le mot pour décrire des apparences de l'Antiquité ou des apparences du XVIe siècle. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'abord de se demander quand, comment et pourquoi ce mot est apparu.
C'est relativement facile, excusez-moi de minimiser votre effort, puisque on sait quand a vécu ou quand a été au gouvernement ce personnage qui s'appelle Étienne de Silhouette.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un ministre des Finances, qui est un ministre de Louis XV.
Bref.
Qui passe de manière, je dirais même brévissime, au ministère des Finances, de mars à novembre 1759. Et pourquoi passe-t-il si vite? Vraisemblablement, bon, les interprétations peuvent être variées, bien sûr, mais vraisemblablement parce qu'il a manifesté une exigence sur la restriction des dépenses beaucoup trop grandes. Donc ça a déplu, il a demandé aussi des impôts qui s'adressaient à des personnes, à des franges qui étaient relativement favorisées. Et ce monsieur des silhouettes est quelqu'un qui laisse son nom pour des raisons qui peuvent être diverses. Il y a plusieurs interprétations, je me limiterai à deux. Il y en a une qui porte sur la brièveté de son ministère, et du coup, silhouette veut dire ce qui passe très vite, ce qui est allusif, ce qui est furtif, ce qui peut se décrire en quelques traits ou en l'espace de quelques mots.
Oui, d'ailleurs, Sébastien Mercier, le grand chroniqueur de la fin du XVIIIe siècle, évoque après coup, avec amusement, l'histoire de silhouette, le thème du dépouillement. Il écrit, dès lors qu'il a imposé ces taxes nouvelles et réduit le budget. Dès lors, tout parut à la silhouette. Et son nom ne tarda point à devenir ridicule. Bien disait-il qu'il a eu beaucoup d'esprit. Les modes portèrent à dessein une empreinte de sécheresse et de mesquinerie. Les surtouts n'avaient point de plis, les culottes point de poche, les tabatières étaient de bois brut, les portraits furent des visages, tirés de profil sur du papier noir, d'après l'ombre de la chandelle, sur une feuille de papier blanc, ainsi se vengea la nation. Fin de citation.
Ce qu'il met en évidence, c'est le fait que la description avec des traits porte sur le minimum de traits. Faire avec le minimum des traits le plus d'expression possible. C'est cela, au fond, finalement. C'est pour ça que ce livre, je l'ai aussi appelé « Défi ». Il y a un défi dans la manière de construire le visible de la silhouette. Mais c'est de l'ordre du dessin, bien entendu. Et il y a une deuxième chose que dit Mercier dans la phrase que vous venez de lire. Il y a une deuxième chose qui porte sur le moyen d'obtenir ces dessins qui, au fond, sont limités à des traits extrêmement pauvres. Cette manière est assez complexe, mais elle est extrêmement intéressante. Elle consiste à placer un visage entre une lumière et un écran de façon à ce que l'ombre se porte sur l'écran et à ce que le dessinateur n'ait plus qu'à tracer en quelque sorte la ligne de l'ombre.
Et on dit, n'est-ce pas, que Silhouette, d'autre part, Monsieur de Silhouette, avait le goût de pratiquer ce genre de dessin.
Oui, alors,
ça
là,
vous
là,
paraît vraisemblable?
Bien sûr, bien sûr. Et là, nous tombons dans la deuxième interprétation possible pour expliquer le fait que Monsieur de Silhouette ait laissé son nom. La première, nous venons d'en parler, c'est la brièveté, le trait furtif, etc. Et la deuxième, c'est, alors les témoignages sembleraient le montrer, c'est le fait que Monsieur de Silhouette se passionnait pour des dessins qui étaient extrêmement rares jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, se passionner pour des dessins obtenus dans le contraste, ombre-lumière, et de façon à ce qu'il ne laisse apparaître ces dessins que le noir par rapport au blanc, le noir donnant la précision du trait. Alors, cette technique me paraît personnellement très importante dans la mesure où l'idéal donné par le dessinateur est de dire, en faisant ce que je fais, c'est-à-dire en observant le simple profil le plus étroit possible, j'obtiens quelque chose qui représente le maximum de physionomie possible. Et ça, c'est totalement nouveau. Et alors, c'est nouveau et intéressant au niveau du XVIIIe siècle, parce que vraisemblablement, ça indique le fait que la préoccupation porte sur la tentative de restituer un sujet, c'est-à-dire restituer un profil totalement singulier. Et on voit comment les physiognomonistes, c'est-à-dire ceux qui étudient le profil pour en tirer des interprétations, appelons-les psychologiques, on voit très bien comment les physiognomonistes se sont précipités sur ce type de présentation. Je pense à Lavater en particulier, qui multiplie les images d'ombre dans son livre sur essais de physiognomonie, se sont précipités parce qu'ils ont eu le sentiment qu'avec ce trait extrêmement pauvre, mais en même temps extrêmement précis, on pouvait distinguer des physionomies différentes et dès lors en tirer des caractères psychologiques différents.
Il faut s'arrêter un instant sur ce Lavater qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui avait fait briller en effet la physiognomonie. Son livre s'appelait, pour le donner le titre entier, « Essai sur la physiognomonie, destiné à faire connaître l'homme et à le faire aimer ». C'est un livre de 1793. Je vais vous en faire écouter un tout petit morceau qui est lu en 1988, tiré de l'émission « La science et les hommes » naturellement sur France Culture.
Les hommes méchamment lubriques. Leurs prunelles sont inégales et semblent tournoyer dans leur orbite. Les libertins agréables, leur menton est médiocrement fendu, leurs reins tiennent le milieu entre la courbe et le convexe, leurs yeux se rapprochent du côté du nez, ils sont errants et se mouillent naturellement. Les amoureux, leur visage est moyen, ils ont les joues et les tempes un peu grasses. Ils soupirent et des larmes leur échappent malgré eux. Si on les observe, ils tremblent et rougissent. Ils ont les yeux à fleur de tête, grands, bien ouverts et brillants, ou bien ils ne clignent point. Ils sont humides, regardent paisiblement, ou ils sont fixes et jettent des regards à la dérobée. Les hommes sans amour, ils ont les yeux noirs et humides. Les gourmands comparés aux loups et aux pourceaux. Chez eux, la distance du nombril au sternum est plus longue que celle du sternum à la gorge. Leur visage est couleur de miel, la bouche très fendue, les dents aiguës, fortes, longues, sortant en dehors. le nœud de la gorge très proéminent. La parole haute et en même temps débile. Le cou gras, les côtes grêles et vides, les mains étroites, sèches et mal conformées. Les yeux voilés, un peu rouges, les paupières inférieures gonflées, le regard errant, les prunelles tressaillantes ou fixes. L'homme emporté a le corps droit, les côtes épaisses, il est courageux. Il a les omoplates distantes, grandes et larges, les extrémités robustes. Toutes les masses autour de la poitrine et des aines sont amples et vigoureuses.
Vous trouvez vraiment, Georges Bigarello, que notre Lavater, dans son ouvrage et dans ses propos, est destiné à faire aimer l'homme? J'en doute un peu à entendre ce propos.
Écoutez, moi je doute de beaucoup de choses. Non seulement il est peut-être en difficulté de faire aimer l'homme, mais en même temps il est en difficulté de faire apparaître sa physiognomonie, en fonction des repères d'aujourd'hui, comme étant une science. En revanche, lui, il est persuadé de faire de la science. C'est-à-dire qu'il est persuadé de trouver dans les physionomies des personnes qu'il étudie les traits qui correspondent plus précisément finalement aux formes. Alors, il n'invente pas la physiognomonie, la Terre. Ce sont déjà des démarches qui existent dans l'Antiquité. Aristote a laissé un traité de physionomie. Jean-Baptiste Adélaporte, à la fin du XVIe siècle, a écrit un traité de physionomie tout à fait intéressant. Mais incontestablement, Lavater, dans ses quatre grands volumes qui sont traduits en français à partir de 1783, dans ces quatre grands volumes, Lavater donne vraiment une multiplicité, on le voit dans le texte, une multiplicité de précisions jusqu'à une profusion sans fin. Et dans une certaine mesure, il nous perd. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir ce sentiment qu'il a de pouvoir déterminer la psychologie à partir du trait obtenu sur le profil. L'avancée des lèvres, la position du nez, l'espace entre le nez et les lèvres, le menton, etc.
Tout ce qui se voit dans la silhouette noire.
Tout ce qui se voit dans la silhouette noire. D'où cette forme de regard quasi obsessionnel, vous voyez, sur la silhouette. Alors c'est évident que quand nous disons cela, nous sommes en fait très loin de la question d'aujourd'hui. Et en même temps, nous n'y sommes pas très loin, parce que qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est essayer de déterminer avec le minimum de traits le maximum d'informations. Et ce qui est intéressant également chez Lavater, c'est la deuxième chose qu'il faut dire, à mon sens, à son sujet, c'est que, bon, il ne se limite pas au visage. Lavater va essayer de prendre en compte l'ensemble de la, de la silhouette, l'ensemble du contour, et il va en tirer aussi des conclusions sur les contours un peu trop généreux, les contours un peu trop droits, et il va dire finalement que dans un corps, il y a quelque chose qui est totalement harmonique, totalement unifié, que le visage répond à l'ensemble du corps, que les jambes répondent au tronc, etc. C'est également un des premiers à dire des choses comme ça. Alors, une fois encore, la façon dont il en tire des conclusions, elles sont extrêmement décevantes par rapport à nos repères. Mais elles sont intéressantes parce qu'il porte finalement un regard sur la manière dont se singularise, à partir d'un pourtour complet, la psychologie de quelqu'un.
D'autre part, il touche visiblement les sensibilités contemporaines, puisqu'un homme comme Goethe se dit effrayé par la silhouette de sa mère, au point de demander à Lavater de la retirer de ses albums, alors qu'il se dit séduit, en revanche, et touché par celle de son père.
Mais précisément, je pense que Lavater est intéressant parce qu'il renvoie à ce que moi j'appellerais un courant culturel. Un courant culturel qui consiste à regarder autrement les corps dans la deuxième moitié du XVIIIe. Pourquoi ? Parce que le problème qui se pose va être de plus en plus la distinction d'un corps par rapport à un autre, et non pas simplement l'appartenance globale d'un corps à une culture, une frange sociale ou à un milieu. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de la présentation silhouettée noir-blanc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les illustrateurs de la deuxième moitié du XVIIIe, j'allais dire les graveurs, enfin ceux qui surtout traduisent leurs dessins avec des gravures. Je pense à Hogarth, par exemple. Je pense à Rolandson, l'anglais. C'est intéressant aussi parce que c'est un courant qui traverse la Manche, si vous voulez. C'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc.
James Gilray.
James Gilray, c'est magnifique, James Gilray, parce qu'il représente dans des repas. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans les repas lorsqu'il les montre, les repas de Bath, par exemple, le lieu de thermalisme anglais? Qu'est-ce qu'il veut montrer?
Les visages et les derrières, c'est ça.
Exactement. Et il veut montrer que les visages et les derrières sont différents d'un individu à un autre. Donc l'académisme qu'il emporte consiste à montrer quels sont les grands caractères physiques, voire anatomiques, lorsqu'on représente des nus. Alors que la préoccupation des illustrateurs dont nous venons de parler, c'est de tenter de montrer la différence d'un individu à un autre. Donc c'est vraiment une construction totalement nouvelle, parfaitement inédite du regard.
Vous vous rappelez ce que disait Clémenceau du tango ? Je ne vois que des visages qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent.
Ah ben oui, tout à fait. Et là, c'est la prise en compte de l'ensemble du corps, précisément.
Plus tard.
Alors, ce qui s'ajoute ici, avec Clémenceau, et qui me paraît très intéressant, c'est le mouvement.
Bien sûr, nous allons y arriver, mais auparavant, je voudrais rappeler que cette question de la silhouette et cette nouvelle forme d'art que constitue l'image en noir, éventuellement découpée au ciseau, se retrouve à différentes hauteurs, puisque ça devient un métier d'être silhouetteur.
Alors, autre caractéristique totalement passionnante, c'est que le silhouetteur va devenir quelqu'un qui vous propose votre portrait. Vous l'achetez et vous pouvez en disposer, vous pouvez même l'encadrer. Ce qui est oublié aujourd'hui, parce que ces portraits sont au fond des découpages sur des papiers extraordinairement fragiles et qui ont disparu pour la plupart.
Il est vrai que désormais, ce sont plutôt des dessins à charge que l'on vous propose du côté du Sacré-Cœur ou devant la Tour Eiffel.
Oui, alors là aussi, le XVIIIe siècle me paraît avoir inventé une pratique d'illustration totalement nouvelle. Et c'est laquelle ? C'est celle qu'on a appelée la charge ou la caricature, qui est très bien décrite dans les textes de l'encyclopédie, par exemple, l'encyclopédie Diderot. Que représente ce type d'illustration ? Une personne dont on retient un trait particulier et que l'on va pousser au maximum de sa déformation possible, tout en entretenant la ressemblance avec le visage d'origine. Donc on voit bien que le regard porte sur le trait qui singularise une personne, vous voyez. Ça, c'est très important. Ça renvoie, entre autres, à ce fameux texte que moi, j'ai toujours trouvé étonnant, pour ne pas dire extraordinaire, qui est dans le roman de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Ce texte, en deux mots, est le suivant. Julie envoie son portrait à Saint-Preux pour, au fond, que Saint-Preux puisse garder sa mémoire, vous voyez. Et Saint-Preux réagit. Que dit-il ? Ben, il dit, le peintre, alors il a tutoie, le peintre, effectivement, t'a bien représenté, il a pris en compte certaines caractéristiques de toi, mais je suis déçu. Alors pourquoi est-il déçu ? Il est déçu parce que ce portrait n'a pas l'animation de la réalité, ça c'est une banalité. Mais il est déçu parce que le peintre a choisi la voie de l'académisme. Il n'a pas pris en compte telle déformation du menton, par exemple, telle petite coupure sur la lèvre ou tel grain de beauté. Et que conclut Saint-Preux, au-delà de sa déception ? Il dit « Mais ce qui me plaît chez toi, c'est pas le fait que tu sois belle en général, c'est le fait que ta beauté est totalement singulière et correspond à ce que tu es. » Et ça, je trouve que c'est l'invention d'une beauté dans sa singularité, et c'est une invention de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Au XIXe siècle, on voit se développer en particulier les dessins qui transforment les visages ou les corps en plantes, par exemple,
bien
en animaux, comme le va le faire Granville.
Granville.
Mais quand je parle des plantes, je peux parler aussi des fruits. Et c'est là qu'évidemment, on pense à Louis-Philippe, qui a été largement brocardé quand il était dessiné en poire. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Pour ce qui est de Louis-Philippe, écoutez cette chanson d'Agénor Altaroche, interprétée ici par Michel Méry, qui s'appelle « Gros, gras et bête ». C'est seulement à la fin de la chanson qu'on s'aperçoit que par une fausse prudence, le chansonnier explique qu'il ne parle pas du roi, mais de son budget.
« Gros, gras et bête, en quatre mots, c'est son portrait. Toisez-le des pieds à la tête, aux yeux de tous, il apparaît. Gros, gras et bête. Gros, gras et bête, bien qu'il ait peine à se mouvoir, sa main s'avance, toujours prête, dès qu'il s'agit de recevoir. Gros, gras et bête, gros, gras et bête, la peur cramponne ses talons, s'il fait un pas vite, il s'arrête, et puis il roule à reculons. Gros, gras et bête, gros, gras et bête, en pelle s'élargit sa main, en poire s'allonge sa tête, en tonneau croît son abdomen. Gros, gras et bête, gros, gras et bête, je dois expliquer mon sujet à l'équivoque, on dit qu'il prête. J'ai voulu peindre le budget. Gros, gras et bête.
On est déjà là, Georges Vigarello, dans les années 1830, au début de la monarchie de Juillet. La sensibilité a beaucoup évolué depuis le XVIIIe siècle.
Alors absolument, je pense que nous avons changé d'époque et on va essayer de le montrer. Rappelons le XVIIIe siècle comme étant celui où, dans la représentation des illustrations, évidemment. C'est l'individualité qui l'emporte. Qu'est-ce qui se passe au début du 19e siècle? N'oublions pas qu'il y a, c'est compliqué, mais il y a la Révolution française, il y a le fait que les franges sociales semblent se croiser, il y a le fait que certains pensent qu'ils ne peuvent plus distinguer finalement les ordres dans l'apparence des uns et des autres, et du coup, ils prétendent devoir aiguiser leur regard pour parvenir à distinguer qui est qui. Et là, on voit très bien qu'il y a un travail des illustrateurs extrêmement précis, extrêmement fort, pour mettre en scène finalement la diversité sociale, en travaillant à la fois sur la diversité en fonction des groupes et en travaillant sur la diversité en fonction des individus. On le voit dans ce que nous venons d'entendre, à savoir le jeu sur la poire, le jeu sur le tonneau, de nouveaux types de représentations. Vous voyez, ce ne sont pas simplement des gros, ce sont des gens dont la grosseur devient particulière. C'est le ventre qui est avantagé par rapport au buste, c'est le bas du visage qui est avantagé par rapport au haut du visage. Bref, la poire renvoie à un nouveau type de représentation. Mais ce n'est pas le seul, et je trouve que de ce point de vue, le 19e est vraiment intéressant. Quand vous regardez des illustrateurs comme Granville dont venons de parler, quand vous regardez des illustrateurs comme Daumier, quand vous regardez ces types de représentations, vous voyez que leur travail porte sur quelque chose qui est nouveau. Et c'est quoi ? C'est essayer de distinguer des caractéristiques morphologiques. Non plus distinguer de la variété, mais classer de la variété. Par exemple, ceux qui ont les jambes trop longues et le tronc trop court, ou l'inverse, le tronc trop grand et les jambes trop courtes, ou la grosseur du bas, la minceur du haut, ou l'inverse.
Au service, en somme, d'une physique sociale.
Alors, au service d'une physique sociale qui classe, finalement, des morphologies. D'ailleurs, le mot morphologie est un mot qui vient de la fin du XVIIIe siècle et qui va être utilisé, c'est-à-dire, finalement, le dispositif dans son orchestration physique, vous voyez, de l'apparence. Je trouve que ça, c'est très important. Parce que c'est vraiment une nouvelle manière d'essayer de lire les apparences, alors que la manière traditionnelle, soit elle portait sur l'académisme, soit elle portait sur le singulier. Alors que la manière de ce début du 19e porte vraiment sur la différenciation morphologique et l'invention de nouveaux mots. La poire, par exemple, c'est un mot nouveau, de même que la cambrure. Quand Balzac décrit la cambrure d'Ursule Mirouet, c'est un mot nouveau qui consiste à préciser le fait que le bassin est creusé, qu'elle ressemble à une sorte de corvette qui traverse la mer. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et de la description physique. Vous voyez dans l'introduction que fait Balzac à la Comédie humaine, qui s'interroge sur comment les individus sont différents les uns par rapport aux autres dans leur morphologie, et comment leur morphologie traduit à la fois du psychologique et du social. Et ce type de description, vous ne le trouvez pas au XVIIIe siècle. Les auteurs qui sont géniaux, bien entendu, la question n'est pas de diminuer leur mérite, mais les auteurs qui sont géniaux ne rentrent pas dans ce type de distinction, alors que ces distinctions deviennent tout à fait fondamentales pour Balzac. Et ce qu'il me semble, d'ailleurs, si je peux ajouter, c'est qu'il est intéressant de lire le Balzac avec les gravures. Voyez, avec les gravures qui sont faites par Tony Joanneau, Granville et quelques autres. Et d'ailleurs, Balzac reconnaît qu'il utilise parfois ce qu'il dit des mots d'atelier, c'est-à-dire finalement les mots des peintres. Et on voit bien que là, il y a une littérature totalement nouvelle qui correspond finalement à un mouvement culturel, à un nouveau type d'interrogation.
Et à côté des artistes et dessinateurs, des peintres, à côté des écrivains, on voit surgir une troisième catégorie de personnages qui s'intéressent à l'évolution du corps, ce sont les savants qui vont commencer d'étudier les postures avec l'idée déjà de corriger la silhouette. C'est le rôle des orthopédistes, des médecins. Tout cela est très stimulant à considérer.
Mais bien sûr, parce qu'il y a bien une convergence culturelle, vous voyez. Il y a bien une convergence culturelle. Les illustrateurs, les romanciers, les gens du littéraire, et puis les gens qui se posent la question de la construction morphologique et qui s'interrogent sur la façon dont cette construction peut dévier. Alors, c'est pas, ils n'inventent pas l'orthopédie. Je pense que vraiment, le premier grand texte, c'est André de Boisgard en 1741, qui renvoie d'ailleurs aux évolutions singulières des uns et des autres. Mais en revanche, ces médecins du 19e, eux, vraiment rentrent dans une problématique qui est profondément inédite et qui est en quoi les individus peuvent échapper à la norme et comment retrouver la norme morphologique, cette fois la norme physique, d'où non seulement des textes, mais aussi des instituts qui se créent dans les années 1820-1830 et qui sont des instituts que je qualifierais, pour dire un peu vite, de redressement, vous voyez, de récupération de la difformité.
Est-ce que vous ne pensez pas que si on rapproche cette période d'aujourd'hui, il y a des ressemblances avec cette sorte de norme précisément imposée aux individus par une sorte de doxa collective.
Il y a effectivement des ressemblances, parce que je pense, pour des raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir l'enjeu de l'apparence, je pense qu'au début, l'enjeu de l'apparence physique et pas seulement vestimentaire, je pense que le début du 19e siècle commence à instaurer quelque chose qui est de l'ordre d'une norme forte et assez rigide. On voit bien d'ailleurs que l'apparence masculine change également, qu'on attend de l'apparence autre chose que ce qui était attendu jusque-là. Je prends un simple exemple, c'est la place de la poitrine. L'individu doit manifester une poitrine totalement ample pour des raisons que l'on peut deviner, qui sont liées à la découverte de l'oxygène, au rôle de la poitrine comme moteur, etc., mais qui renvoient aussi à la nécessité de serrer le ventre. Ce qui ne s'appelle pas encore silhouette, parce que la silhouette reste de l'ordre de l'illustration, mais que nous pourrions appeler silhouette dans la mode, exige des corps qui sont différents chez les hommes et des corps qui sont aussi différents chez les femmes. La poitrine prend une place tout à fait nouvelle, l'ampleur des épaules, avec la crainte aussi de la phtisie. Vous voyez, il y a tout un arrière-plan, cette fois, physiologique, voire pathologique, qui joue sur la manière dont s'impose quelque chose qui est de l'ordre de la norme sur la morphologie.
Alors évidemment, avec le développement du romantisme, on va retrouver aussi du côté de la poésie.
Mais oui.
Un certain nombre de traduction de cette évolution, de cette physique sociale.
Et oui, c'est cela qui rend la silhouette intéressante comme thème, vous voyez, parce que cette présentation noir-blanc, qui va quand même durer dans le temps, les silhouetteurs, ils continuent d'exister dans les années 30, dans les années 40, juste avant le daguerréotype et la photographie, juste avant. Eh bien, ils ont des correspondances, et ils ont des correspondances dans la peinture. La peinture va essayer de mettre en scène les silhouettes qui sont à la mode. Et donc, le rôle du jeu sur le noir-blanc va rentrer dans la problématique romantique. À la fois comme phénomène de nostalgie par rapport aux individus qui deviennent des sortes de présences ombrées, mais va rentrer aussi dans la problématique romantique parce que, je pense à des peintres comme Gaspard Friedrich, parce que les individus vont être montrés comme minuscules par rapport à l'immensité. Et donc, ce qui se joue cette fois dans la silhouette illustré par les peintres, c'est le rapport entre l'individu perdu par rapport à un infini. Vous voyez, le romantisme comme découverte non plus simplement de la surnature religieuse, mais comme découvrant finalement l'infini de l'individu et dans une certaine mesure sa fragilité et sa petitesse.
Dans la suite du romantisme, en indépendance d'ailleurs par rapport à lui, Baudelaire, c'est le poème qui s'intitule « À une passante ». Lu ici par Marie-Christine Barrault en 83, dans l'émission Parenthèse. À une passante, la silhouette est là.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Voilà une silhouette magnifique, Georges Vigarello.
Ah oui, de ce poème absolument extraordinaire. Je pense qu'il faut retenir d'abord cette description extrêmement rapide de l'allure, longue, mince, en grand deuil, vous voyez, en quelques traits. Et ce qu'il faut retenir aussi, qui me paraît à la limite plus important, c'est le mouvement, balançant le feston et l'ourlet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose qui est de l'ordre du dessous commence à exister, commence à être évoqué. C'est au fond le mouvement, mais dans sa dimension anatomique qui permet de balancer en quelque sorte l'habit et de faire apparaître ce qui est dessous. Et on le voit, ce genre de description, on le voit également chez Balzac, dans les antiques, cette femme dont la robe finalement se balance. On le voit aussi dans les illustrations, je pense à Gavarni. Gavarni a des illustrations magnifiques où la robe, c'est plutôt la jupe d'ailleurs, se met à bouger et l'individu qui est en face dit « elle me fait des yeux », comme si sa robe devenait, au fond, une manière d'affronter, voyez, en proposant du regard. Et là, quelque chose qui est complètement nouveau, là encore, s'impose, qui commence à faire apparaître la silhouette au sens où elle va être de plus en plus entendue, au sens anatomique, c'est-à-dire finalement ce qui est dessous.
Et là, on approche de notre...
On approche de notre époque.
De notre époque, bien sûr. Mais avant d'y arriver, il faut que nous attardions sur les conséquences, dans la seconde partie du XIXe siècle surtout, de l'arrivée de nouvelles manières de communiquer et d'échanger dans une société l'expression des sensibilités. Tout simplement, il s'agit de la presse à grand tirage, il s'agit des affiches et il s'agit de la photographie.
Cette histoire, c'est bien une histoire du regard. C'est bien une façon de construire la manière de regarder, finalement, les corps. Et là, il y a plusieurs dynamiques qui ont joué un rôle. Donc, on a parlé de certaines dynamiques en disant l'exigence de distinguer des individus dans le social. On a parlé de certaines dynamiques en disant de relever du psychologique ou de relever du dessous, etc. Mais il y en a une autre dynamique qui me paraît très importante et qui est liée à la presse, qui est liée à l'affiche, c'est-à-dire l'exigence de communiquer des traits les plus simples qui soient, mais les plus expressifs aussi qui soient, parce qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte qui est liée au temps, d'une part, il faut renouveler l'information quasi tous les jours dans les journaux, mais une contrainte qui est liée aussi à la manière dont le lecteur regarde. Et le lecteur n'a qu'un instant pour regarder. Et donc, certains illustrateurs commencent à dire, au fond, ce que je représente, ça doit correspondre à un coup de fusil. C'est-à-dire finalement un trait extrêmement simple, mais qui choque d'emblée. Et là, on voit bien que c'est effectivement une manière d'apprêter la manière de regarder pour que ce regard puisse saisir l'essentiel en s'en tenant à quelques traits. On revient toujours au même problème, mais là, on est dans un autre champ, qui est celui de la presse, qui est celui de l'affiche. L'affiche, c'est encore plus manifeste, vous voyez. Dans une affiche, il faut vraiment pouvoir saisir, je dirais de manière furtive, dans le regard furtif, quelque chose qui est tout aussi furtif dans la représentation.
On pense à Toulouse-Lautrec, on pense à Capiello, on pense plus tard à Fix-Masso ou à Savignac.
En tout cas, Toulouse-Lautrec est de ceux qui me paraissent avoir inventé quelque chose dans la représentation. Parce que ce que fait Toulouse-Lautrec, c'est à la fois de présenter des traits, appelons-les simplifiés, mais c'est aussi de présenter des traits qui parfois sont exagérés. Je pense à Valentin le Désossé dans l'image, la représentation du Moulin Rouge. Valentin le Désossé est dans une certaine mesure complètement désarticulé, mais dans sa désarticulation, c'est du mouvement immédiatement expressif et saisissable qu'il représente.
D'ailleurs, c'est une publicité pour un bal, concert, bal tous les soirs. Il y a la goulue qui est
la goulue qui danse
en
levant ses jambes, etc. Oui.
Donc le mouvement.
Et la goulue aussi est très bien représentée dans le mouvement. Alors, ce qu'il faut du coup retenir aussi, c'est que cette présentation, appelons-la pauvre, mais en même temps très expressive, va favoriser la représentation du mouvement. Parce que le geste illustré par quelques traits, filiforme, et celui qui est en mesure de donner au maximum l'intensité de ce geste, vous voyez. Il n'est pas perdu dans l'anecdote, il n'est pas perdu dans la multiplicité des traits. Et donc, à cette époque-là aussi, par exemple dans la représentation de la danse, dans la représentation de la course, dans la représentation des courses de chevaux, s'inventent des mises en scène qui sont extrêmement filiformes et particulièrement expressives.
Et c'est là qu'on retrouve le rôle essentiel de la photographie. Je pense à ces photographies de ce grand précurseur qui a été Étienne-Jules Marais, par exemple, qui anime celle-ci pour le mouvement. Les chevaux, certes, mais aussi les hommes.
Alors, tout à fait. Je trouve que la photographie joue un rôle, évidemment, très important dans ce type de mise en silhouette, finalement, des individus. Alors, pourquoi joue-t-elle un rôle si important ? Parce que les photographes ont voulu mettre en évidence, je pense à certains d'entre eux, je pense en particulier aux physiologistes, mais pas seulement, à ceux qui veulent représenter les gestes quotidiens, les courses, etc. Ils ont voulu mettre en évidence des corps réduits d'abord à l'essentiel. D'où, je pense à Muybridge, et à Marais, bien entendu, d'où des photographies de nus. C'est là que le corps représente dans son mouvement ce qui est le plus central, ce qui est le plus décisif. Et dans les photos de Muybridge, c'est extrêmement parlant. Il y a une magnifique édition de Muybridge qui est sortie chez Tatchin il y a environ 2 ou 3 ans.
En Angleterre, lui.
Ah, oui, c'est ça. Muybridge, c'est en Angleterre, en Amérique. Marais, c'est en France. Ils ont des procédés différents. Muybridge, lui, essaie de prendre des courses avec des appareils mis en batterie, les uns à la suite des autres, et se déclenchant à chaque fraction de seconde. Alors que Marais, lui, travaille sur un appareil qui fait tourner à l'intérieur même du fusil, il appelle ça le fusil photographique, qui fait tourner les possibilités de saisir le mouvement. Donc les procédés sont différents, mais l'enjeu est exactement le même, c'est de traduire dans un mouvement ce qui se déroule à la fraction de seconde près. Donc ce qui devient très important dans la fraction de seconde, c'est de déterminer ce qui se déplace. Et ce qui se déplace ne peut être véritablement bien vu que si votre corps est nu, voyez. Et là, on voit très bien que l'exigence, c'est une fois encore de faire apparaître le dessous. C'est-à-dire de faire apparaître le corps dans sa dimension, à la fois, je dirais, la plus exsangue, mais en même temps la plus parlante.
Détour par le nu qui paraît inévitable avant de revenir.
Avant de revenir.
Vers la manière de vêtir.
À l'habit, bien entendu. Avant de revenir à l'habit. Mais je crois qu'il faut insister sur ce nu, parce que, dans une certaine mesure, à la fin du 19e siècle, il se banalise. Il devient quelque chose de susceptible d'être représenté de façon commune. Et ce sont des nus vraiment quotidiens qui sont représentés. Ce ne sont plus les nus académiques. Là encore, on a décalé. Ce ne sont plus les nus académiques. Ce sont les nus dans la vie française, dans le courrier français, dans les revues, dans certaines revues de mode un petit peu légères, si vous voulez. Mais l'enjeu est bien de représenter l'anatomie dans sa simplicité quotidienne, dans sa simplicité de tous les jours, dans une simplicité qui concerne tout le monde. Et donc qui va favoriser le regard porté sur ce tout le monde, et pas seulement sur l'académisme.
On retrouve la question sociale.
On retrouve d'emblée, effectivement, la question sociale, et on retrouve une exigence, alors qui va être apportée par d'autres types de dynamiques, mais qui consiste à ce que ce soit l'anatomie qui parle sur l'habit.
Et puis on retrouve la question des relations dans leurs différences entre les hommes et les femmes. Et ces années... Nous arrivons maintenant au XXe siècle, Georges Vigarello. Ces années qui précèdent la Grande Guerre sont celles du début d'une mutation essentielle. En gros, nous écoutions tout à l'heure la chanson sur la garçonne. C'est une mutation qui commence vers 1905 avec l'abandon fondamental pour notre sujet de la silhouette du corset, des femmes. Et pour ça, je vais vous faire entendre une interview de 1950. Une demoiselle spécialisée dans la lingerie, c'est mademoiselle Cadol, de la maison Cadol, interrogée par Elisabeth Darcet. On est le 3 janvier 1950.
Nous continuons aujourd'hui notre reportage sur l'évolution de la silhouette féminine en 50 ans. Nous avons consacré notre dernière émission au corset et tout naturellement, nous en arrivons aujourd'hui à la lingerie. Et c'est mademoiselle Cadol, de la maison Cadol, qui va nous aider à faire une petite mise au point.
Eh bien, de tout temps, la lingerie a exercé un très grand attrait sur la femme, probablement parce qu'elle permet beaucoup de fantaisie. L'histoire de la lingerie, pendant ce demi-siècle, s'est caractérisée, d'une part, par la simplification des vêtements féminins au fur et à mesure que les années ont passé, et d'autre part, par la qualité de plus en plus belle des tissus employés.
Voyons, en 1900, on ne disait pas encore de la lingerie, on disait des dessous, tout simplement. Et j'aimerais bien que vous nous parliez justement des dessous d'une élégante 1900.
Eh bien, à cette époque, une femme qui s'habillait bien portait sur elle une chemise de jour, un corset, un pantalon, un cache-corset, deux jupons de dessus et un jupon de dessous.
Évidemment, ça fait rêver quand on pense à certaines femmes qui, actuellement, portent tout simplement un slip et un soutien-gorge.
Voyez-vous, si nous voulons examiner de plus près l'évolution qui a conduit la lingerie féminine vers sa forme actuelle, il nous faut diviser notre sujet en quelques grandes périodes.
Oui, et nous allons situer la première de 1900 à 1910, n'est-ce pas?
Oui, et pendant ces 10 premières années, la lingerie se distingue par l'ampleur. Disons même l'encombrement des pièces qui la composent. Les jupons sont très larges, les pantalons à volant descendent jusqu'à mi-jambe, tout cela garni de nombreux rubans assortis à la couleur de la robe, parfois même à la couleur des rideaux de la chambre.
Mais ça, c'est amusant.
Mais ces lingeries ne sont pas faites comme maintenant de tissus précieux. Ce sont des nansouks, du linon, de la batiste.
Oui, mais garnis, je crois, de merveilleuses dentelles.
De véritables dentelles, voulez-vous dire? En 1910, l'apparition du corset souple et du soutien-gorge modifie d'une façon importante la forme de la lingerie. C'est à cette époque qu'est créée la chemise de jour à épaulettes et la combinaison jupon. Les pantalons sont longs et à jarretière. Et c'est dans les années qui ont précédé immédiatement la guerre de 1914 que la lingerie de soie fait son apparition.
Je me rappelle que cette archive remonte à 1950, au milieu du XXe siècle, ce qui naturellement influe sur la forme de la conversation, c'est très daté, mais qui influe aussi sur un type de regard jeté 50 ans en arrière. On est à l'époque à même distance de 1900, pratiquement, que nous le sommes aujourd'hui.
Oui,
de
absolument.
Cette période.
Nous retrouvons ici les problèmes que nous évoquions au début, mais ce que je veux retenir aussi, c'est que l'interlocutrice parle de silhouette. Autrement dit, par rapport à cette définition de la silhouette qui portait sur l'illustration, nous sommes insensiblement entrés dans une définition de la silhouette qui porte sur le port du corps, sur l'attitude de chacun. Et cela, à mon sens, ne pouvait vraiment apparaître qu'à partir du moment où l'apparence transmet quelque chose qui s'est profondément simplifié et qui renvoie véritablement à la ligne anatomique. Et l'enjeu, bien entendu, on l'a entendu ici dans les propos des deux personnes qui parlent de la lingerie, le propos, c'est de rendre l'habit de plus en plus proche de l'anatomie, avec, bien sûr, le risque de faire en sorte que cette anatomie trahisse l'individu, d'où l'intérêt tout à fait nouveau et très fort, porté sur, cette fois, la morphologie individuelle, la manière dont nous apparaissons. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui risque de passer à côté de l'exigence et de la norme? Et comment arriver à récupérer, vous voyez? Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, que moi, je qualifierais de l'exigence intime sur l'anatomie.
La fin du corset, c'est bien cela que ça signifie, sous l'influence du couturier Paul Poiret. Ça remonte à la première décennie du XXe siècle.
Poiret, de ce point de vue-là, traduit génialement, bien sûr, mais il traduit quelque chose qui était de l'ordre d'une exigence culturelle, si vous voulez, de la part de la femme. Et on le voit d'ailleurs aussi dans la manière dont des groupes se constituent, des groupes féministes se constituent pour réclamer la fin du corset. D'ailleurs, moi, je souris toujours quand on dit que la mode d'aujourd'hui, c'est une tyrannie. On oublie que le corset, c'est aussi une tyrannie. Alors, c'est une tyrannie, pourquoi? Parce qu'il est extraordinairement rigide. Et il ne sert pas que la ceinture, il sert les épaules. Et on voit très bien dans les robes qui existent encore aujourd'hui et qui témoignent de ce qui était porté au XVIIIe siècle, on voit très bien que ces robes, par exemple, manifestent des épaules extrêmement étroites, manifestent des bustes extrêmement étroits. N'oublions jamais les descriptions des médecins, n'oublions jamais les descriptions des littéraires, je pense à Montaigne. Montaigne dit, mais comment peuvent-elles porter ce genre de carcan qui, à grosses croches, viennent les saisir jusqu'au sang, vous voyez ? On ne peut pas oublier ça. Et en même temps, la mode l'a emporté. Et je dirais, la minceur féminine renvoyait, à mon sens, non pas à la minceur d'aujourd'hui, mais renvoyée à quelque chose qui était de l'ordre de la fragilité. Il faut que la femme apparaisse comme légère, fragile, vulnérable, d'où cette manière d'avoir des pas extrêmement restreints et d'avoir des troncs extrêmement resserrés, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a de la minceur, mais on le voyait avec Colette, mais c'est une minceur tonique, c'est une minceur active, c'est une minceur musclée, ça n'a plus rien à voir avec la minceur traditionnelle. D'où cette minceur de la silhouette, qui peut porter le nom parce qu'elle renvoie à un trait extrêmement simple, mais qui est une minceur tonique.
Avec la fin de la dictature des baleines.
Oui, bien sûr. Des baleines portées qui supposaient d'ailleurs des travaux infinis sur les océans pour saisir les fanons.
Ces années 1910 à 1930 sont centrales pour votre réflexion, sur la silhouette,
oui.
Georges Vigarello.
Oui, moi je suis heureux que vous disiez ça parce que je pense que c'est effectivement là que se déroule quelque chose qui est de l'ordre d'une métamorphose. Et on oublie, on a le sentiment que la femme d'aujourd'hui se crée dans l'appareil de la Deuxième Guerre mondiale, la femme d'aujourd'hui se crée après, au moment, je dirais, juste avant et après la Première Guerre mondiale, et l'explosion de la silhouette contemporaine, c'est celle des années 30.
Il y a naturellement un écrivain majeur qui rend compte de cela, c'est Marcel Proust, à propos de l'évolution, de la métamorphose d'Odette. Le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette, cernée tout entière par une ligne, entre guillemets, par une ligne qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, l'éparpillement composite des modes d'autrefois, mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier pour toute une partie du parcours les défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure avaient disparu, ainsi que des corsages à basques qui dépassaient de la jupe et raidis par des baleines avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avaient donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène bat l'onde et donnait à la percaline une expression humaine, maintenant qu'il s'était dégagé comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l'enveloppement des modes détrônés. C'était Marcel Proust qui vous parlait.
Moi, j'ai toujours trouvé cette description absolument magnifique et majeure pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une façon d'exprimer qui, évidemment, passe par le génie, mais en plus parce qu'elle traduit parfaitement ce qui s'est passé dans ces années 1910. Et elle traduit parfaitement ce qui s'est passé dans les années 1910 et elle fait écho, dans une certaine mesure, à ce que Balzac pouvait dire tout à fait autrement sur des changements qui ont aussi eu lieu alors à son époque. Et donc on voit à quel point la littérature traduit de manière, je dirais, absolument magnifique les changements de la forme corporelle et pas seulement les changements de la mode.
C'est Marguerite Gilbert qui chantait en 1933 « C'est pour l'amour qu'on fait tous ces trucs-là », une chanson de Wilmette et Oberfeld. Les normes sont différentes, il n'y a plus de corset, mais il y a d'autres pressions sociales.
Oui, les normes sont différentes et du coup les pratiques aussi sont différentes. Puisqu'il n'y a plus de corset, donc il faut construire ce que certains auteurs appellent un corset musculaire. Et ce qui passe à la fois par le régime, mais qui passe aussi par certaines pratiques de gymnastique. D'ailleurs, on le voit très très bien quand on regarde des photos. On voit très bien que les corps ont changé. Et que, peut-être pas tous, mais beaucoup, commencent à avoir des muscles visibles. Le muscle commence à être autorisé. Vous voyez, il y a des travaux, d'ailleurs, sur les muscles féminins dans ces années-là. Ce qu'il faut ajouter, cette chanson, évidemment, est magnifique. Mais quand elle dit « c'est pour l'amour », je crois que c'est plus complexe. Bien sûr que c'est pour l'amour, mais c'est aussi pour s'inscrire dans les pratiques quotidiennes. C'est pour pouvoir mieux travailler, c'est pour pouvoir être plus mobile. La société de la première moitié du 19e siècle, c'est une société qui commence à intégrer des exigences tout à fait nouvelles. La vitesse, par exemple, vous voyez, et qui concerne les hommes aussi.
L'homme pressé de Paul Morand.
L'homme pressé, donc ça change le physique, ce qui est attendu. Ça change l'habit, la vitesse, la mobilité, et surtout le fait d'apparaître en permanence dans l'action. Donc, quel est le mot qui va s'imposer? C'est le mot de léger, léger par rapport à lourd. Vous voyez, il faut, au fond, s'adapter. Et cela renvoie à des exigences qui sont des exigences physiques, voire morphologiques, bien sûr. Et donc, ce n'est pas seulement l'amour, même si c'est aussi l'amour.
D'ailleurs, observez que le mot de légèreté se retrouve dans les chroniques des journalistes spécialisés, comme je le disais tout à l'heure, à propos de la mode de 2013. Mais vous avez bien raison de dire que tout ce que nous observons ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qui ont été pendant plusieurs décennies engoncés dans cette sorte d'uniforme bourgeois de la jaquette en noir et en blanc, qui apparaissent en plein air, avec le succès en particulier des Jeux Olympiques, qui me paraissent, dans la représentation des Jeux Olympiques, jouer un rôle important dans la promotion de la gymnastique et de la musculature.
Mais c'est vrai que quand on pense à la silhouette, on a d'emblée tendance à penser à la silhouette féminine. Or, absolument, la silhouette masculine a ses propres exigences et elle change. Alors, quels sont les changements? On voit très bien que, comme je disais tout à l'heure, au début du 19e siècle, le dandy, c'est celui qui a une poitrine bombée et un ventre resserré, mais que l'homme à la poire, le notaire de Balzac, il peut aussi avoir son prestige. Donc avoir un ventre rebondi n'est pas a priori considéré comme quelque chose de susceptible de stigmatisation. Ça peut être aussi la représentation d'une richesse, d'une aisance, d'une sorte de faconde de comportement. Or, le ventre rebondi, au début du 20e siècle, disparaît. Nous sommes dans la période que vous aviez citée lors d'une de vos émissions, nous sommes le martyr de l'obèse. Vous voyez, là.
D'Henri Béraud.
Là, il faut manifester, au contraire, aussi vitesse adaptabilité, légèreté, la technique, le fait d'être immédiatement adaptable. On voit bien dans la manière dont se construisent des repères des ouvriers, mais on le voit plus encore dans la manière dont se construisent des repères des hommes de bureau. L'homme de bureau ne peut pas être un homme lourd, même si c'est quelqu'un de sédentaire. Ça doit être quelqu'un qui s'adapte. Et d'ailleurs, dans le martyr de l'obèse, l'obèse en question est renvoyé parce qu'il apparaît comme trop ventrigoulard. Vous voyez, il faut qu'il soit, au contraire, très sec. Bon, revenez me voir lorsque vous aurez maigri. Donc, ça concerne aussi, bien entendu, la silhouette masculine. J'ajoute peut-être que ce qui s'est produit au XXe siècle, c'est un grand changement dans la silhouette masculine. Je reviens au sport. La silhouette du début du XXe, c'est une silhouette qui doit manifester une force. Et bien sûr, légèreté, mais force. Donc, la poitrine est véritablement en trapèze. Vous voyez, il faut les épaules larges et la ceinture resserrée. Or, on voit très bien que dans le monde d'aujourd'hui, ce type de repère continue d'exister pour un certain nombre de culturistes ou pour un certain nombre de sportifs, etc. Mais il a tendance à s'effacer. Et la silhouette de l'homme d'aujourd'hui, c'est une silhouette fluide, c'est une silhouette élancée, c'est une silhouette dont le dynamisme se rapproche davantage de la liane que de la force du lutteur, vous voyez.
Une autre façon de lire tout cela pourrait être d'évoquer l'évolution de la gastronomie. Je pense en particulier à telle ou telle collection qui peut être faite des menus des repas officiels, par exemple au Sénat ou ailleurs. Quand on reprend ceux de 1900 ou 1930, on est stupéfait qu'on ait pu consommer tant de viande en sauce et tant de poissons surchargés, de tout ce qui peut faire grossir, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les choses ont beaucoup évolué.
Mais c'est un imaginaire qui commence même au 19e. Je vois le livre de Jean-Paul Aron, Le mangeur du 19e siècle. L'exigence, c'est de faire de la chair, c'est d'être bien en chair, de brûler en quelque sorte de l'énergie. Aujourd'hui, brûler de l'énergie continue d'être un repère, mais le repère majeur, c'est quand même être léger, rapide, adaptable, technique. Ça se traduit bien sûr dans l'exigence de la nourriture. Vous voyez, les plats légers, ce sont des plats beaucoup plus fréquents qu'ils ne l'étaient auparavant.
Eh bien, nous terminons notre conversation sur l'histoire de la silhouette, Georges Vigarello, d'une manière qui est propre à aiguiser les appétits pour le déjeuner de tout à l'heure. Je ne m'en plaindrai pas. Votre livre, qui va paraître dans quelques jours, s'appelle « La silhouette du 18e siècle à nos jours, naissance d'un défi ». Je rappelle le livre que j'évoquais en commençant, un livre collectif que vous avez dirigé avec Jean-Jacques Courtine et Alain Corbin, qui s'appelle « Histoire du corps » en 3 volumes, paru entre 2005 et 2006 aux éditions du Seuil. Vous pourrez trouver une bibliographie complète, plus complète, sur notre site, vous le savez, les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter cette émission pendant 1000 jours. 1000 jours, dépêchez-vous, et la podcaster pendant un an. Samedi prochain, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui seront consacrés cette année à l'histoire des paysans, des origines à nos jours et sur la planète entière. Dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Blois, je recevrai Maurice Sartre, il fallait choisir, pour parler des paysans dans la Grèce antique.
De silhouette avec la nuit vont s'enlacer. De silhouette au vent qui fuit semble danser. Elles s'en vont sur le chemin qui mène au rêve. Cueillira jusqu'à demain, mais pour nous deux, le ciel déjà semble grisé de leurs aveux, et chaque étoile est un baiser dans leurs cheveux. Laissons-les fuir, mais si tu veux. Unis pour toujours, de silhouettes auront demain trouvé l'amour.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, et réalisée par Patrick Molinier, comme chaque semaine, avec Vincent René, comme si souvent, à la prise de son, avec Romain Couturier à la discothèque et Sandra Escamès pour les archivinas. Et dans quelques instants, d'une silhouette à l'autre, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.
Mais ce beau rêve que nos cœurs ont inventé peut devenir dans le bonheur réalité. Viens dans mes bras et tu verras comme une ombre fuit.